J'étais propriétaire de ma ferme depuis 2 ans déjà, lorsque j'appris qu'on pouvait y observer, tous les soirs d'avril et de mai, une danse céleste au-dessus des bois. Depuis que nous avons fait cette découverte, ma famille et moi ne manquons pas une seule représentation. Le spectacle commence à 18h50 précise, dès la première soirée tiède d'avril. Le rideau se lève chaque soir avec une minute de retard supplémentaire jusqu'au 1er juin. Ce jour-là, le spectacle commence à 19h50. Ce glissement est dicté par la vanité, car le danseur exige une intensité lumineuse romantique de 0,05 candela exactement. Ne soyez pas en retard et ne faites pas de bruit, de crainte qu'il ne prenne la mouche et ne s'envole. Connaissant le lieu et l'heure, vous vous installez sous un arbuste à l'est de la scène et vous attendez. En plissant les yeux, vous pourrez le voir arriver dans le coucher du soleil. Le voilà. Il surgit à basse altitude de quelques taillis voisins, atterrit sur la mousse et se lance aussitôt dans son ouverture. Une série d'étranges petits martèlements de fond de gorge espacés de 2 secondes, environ, qui ressemblent un peu à l'appel de l'engoulevent en été. Soudain, le martèlement cesse, et l'oiseau s'élève vers le ciel par une série de larges spirales avec un gazouillis mélodieux. De plus en plus haut, en spirale de plus en plus serrée, en gazouillant de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'artiste ne soit plus qu'une petite tache dans le ciel. Alors, sans prévenir, il se laisse tomber d'un coup comme un avion touché au vol, tout en continuant de chanter un babil doux et liquide que pourrait lui envier un merle bleu en mars. À 1 mètre du sol, il amorce son atterrissage et revient se poser sur la scène, souvent à l'endroit précis où avait débuté la représentation. Là, il reprend son martèlement. Il fait bientôt trop sombre pour distinguer l'oiseau au sol, mais on peut suivre ses évolutions dans le ciel pendant 1 heure encore, ce qui correspond à la durée habituelle du spectacle. Par les nuits de lune, cependant, il lui arrive de continuer aussi longtemps que la lune brille. C'est peut-être une chance, quelle que soit l'attention avec laquelle on étudie les 1000 petits drames qui se jouent dans les bois et dans les prés, on ne connaîtra jamais tous les éléments qui permettraient de comprendre parfaitement, ne serait-ce qu'un seul d'entre eux. Ce que je ne sais toujours pas à propos de la danse céleste, c'est où se trouve la dame et quel est son rôle, à supposer qu'elle en ait un. Je vois souvent 2 bécasses évoluer sur la même scène et il leur arrive de voler ensemble, mais jamais de marteler ensemble. Qui est ce 2e oiseau? La femelle ou bien un rival? Autre inconnu, le pépiment est-il vocal ou mécanique? Mon ami Bill Finet jeta un jour un filet sur un oiseau marteleur et lui ôta ses plumes rémiges. Après cela, l'oiseau continua de marteler mais ne pépilla plus.
L'extrait que je viens de vous lire recèle toute la poésie éthologique dont fait preuve Aldo Léopold dans l'Almanach d'un comté des sables. Même s'il s'intéresse à toutes les formes de vie, du pli gigantesque des grizzlies jusqu'à Draba, la plus petite fleur du Wisconsin, notre philosophe des forêts montre un attachement particulier pour les oiseaux, qu'ils soient grues, oies sauvages, bécasses, protonotaires ou perroquets. Alors, poète tête en l'air, ornithologue du dimanche et philosophe en mal de nature, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Attire d'aile, consacré aux oiseaux d'Aldo Léopold. Pour ceux qui n'ont pas la chance de le connaître, Aldo Léopold est un garde forestier, universitaire, écologue, philosophe, qui a vécu entre 1887 et 1947. On lui doit un dictionnaire de la chasse et de la pêche, qui délimite les devoirs et les pouvoirs des gardes forestiers de l'État. Je sais, c'est passionnant. Un livre sur la gestion du gibier, qui a l'air super mais dont on ne va pas parler aujourd'hui. On lui doit aussi la fondation de la Société des espaces naturels, qui est le premier espace naturel officialisé par le gouvernement américain en 1924. Et enfin, l'Almanach d'un comté des sables, qui est un ensemble d'essais composé de descriptions naturalistes et de réflexions philosophiques. Dans l'Almanach, Aldo Léopold part de ses observations quotidiennes de la nature pour formuler des critiques de l'industrialisation, de l'agriculture productiviste et de tous les mécanismes qui conduisent à l'uniformisation et à l'appauvrissement des écosystèmes. Alors je sais, ce n'est pas super joyeux, mais c'est de cela qu'on en va parler aujourd'hui. Alors je pourrais passer des heures à vous lire des passages juste pour vous montrer comme c'est intelligent, bien écrit, précurseur. Mais bon, ce ne serait pas très démocratique et déjà qu'on n'a pas énormément d'auditeurs, on va éviter d'en faire fuir la moitié pendant ce direct. Non, moi j'ai décidé, pour rester dans le thème de l'émission, d'exhumer les passages précis qui partent d'observations ornithologiques et qui nous emmènent ensuite à des réflexions sur la manière de recomposer nos rapports avec le vivant pour préserver ce qu'Aldo appelle la communauté biotique. Alors, dans le bestiaire des animaux à plumes d'Aldo Léopold, nous avons d'abord la bécasse, qui m'a permis d'ouvrir le bal avec cette chronique. La danse magique des bécasses dans l'amphithéâtre des marécages, comme l'écrit Le Clésio. Ce sur quoi l'auteur veut attirer notre attention dans ce passage, c'est sur le fait que pour protéger une espèce, il faut garder une part d'émerveillement vis-à-vis d'elle. Bien sûr, il faut l'observer, bien sûr, il faut la connaître et la comprendre, mais il est aussi important de réitérer son étonnement devant les comportements animaliers, comme ici, la danse nuptiale de la bécasse. D'ailleurs, Aldo traduit son étonnement par une métaphore qui assimile l'oiseau à un performeur qui soigne son entrée et effectue une chorégraphie. Alors, on pourrait crier à l'anthropomorphisme sans chercher à réfléchir plus que ça, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur assume une forme d'anthropomorphisme heuristique qui permet d'interpréter des comportements aliens, ceux des animaux, dans notre langage. Il use souvent de la puissance de la métaphore pour retranscrire le mystère d'une pratique animale. Pour reprendre les mots de Baptiste Morisot dans « Manière d'être vivant », Aldo Léopold pratique une éthologie située, capable de rendre justice à l'intime altérité des autres formes de vie que la nôtre. D'ailleurs, on notera qu'Aldo Léopold n'a pas une interprétation unique et fonctionnaliste de la danse de la bécasse. Il ne traduit pas ses comportements, il propose des interprétations variées aux significations ouvertes, laissées en suspens, comme des hypothèses. Il nous dit que nous devons reconnaître la part irréductible de mystère contenue dans le ballet des oiseaux, au clair de lune. Et ce mystère fonctionne comme un principe régulateur qui nous pousse à affiner sans cesse nos hypothèses éthologiques. Quel monde ennuyeux qu'un monde où nous saurions tout sur les oies, écrit Aldo. Et c'est pareil pour les bécasses, le sens de la danse ne sera jamais traduit, il sera toujours à traduire. C'est pour cela qu'il faut protéger les danseurs, qu'il ne faut pas trop les chasser. Une bécasse ne danse plus quand elle est tartinée sur un toast. La dernière idée de ce passage, c'est qu'on devrait peut-être songer à rééduquer nos plaisirs. Aldo Léopold parle des fermiers qui se plaignent de manquer de distraction alors qu'ils ont ce spectacle des bécasses qui se joue à deux pas de chez eux sans qu'ils le sachent. Bon, nous, on est des iPad kids. Il y a peut-être une filiation là-dedans. On est peut-être perdu pour la cause, mais non, sortons, allons voir les oiseaux. Et justement, nous ne pourrons pas protéger la biodiversité sans raviver notre sensibilité aux événements naturels. Il faut que l'on rééduque notre désir pour enrichir nos expériences et affections interspécifiques, retrouver cet émerveillement originaire en chargeant notre observation éthologique d'une dimension affective et personnelle. Et c'est d'autant plus facile avec les oiseaux parce qu'il y en a un peu partout, même en ville, et qu'en plus c'est super cute les oiseaux. Dans le parc du site Descartes de l'UNS, on a de la chance parce qu'il y a des geais, des rouges-gorges, des moineaux, des mésanges charbonnières, des mésanges bleus, des corneilles, des pies, et j'en passe. Ce que nous n'avons pas, par contre, à ma connaissance, ce sont des protonotaires. Aldo Léopold était très fier d'avoir des protonotaires sur sa parcelle de terre. Ses voisins, eux, n'en avaient pas. Et pourquoi les protonotaires préfèrent la parcelle d'Aldo? Eh bien, c'est parce qu'à la différence de ses voisins, Aldo ne déracine pas tous ses arbres malades. Il les laisse pourrir, ce qui crée des abris et des réserves de nourriture pour les protonotaires. Et j'adore dire ce mot, protonotaire. Aldo écrit... Le plus beau joyau de ma parcelle ravagée par les maladies, c'est le protonotaire. Il niche dans un vieux trou de pivert ou quelque autre cavité modeste, ou encore dans un chicomore suspendu au ras de l'eau. L'éclair de son plumage or et bleu dans la pourriture humide des bois au mois de juin est à lui seul une preuve que les arbres morts, transmutés en animaux vivants, et vice-versa. S'il vous arrive de douter de la sagesse de cette organisation, jetez un coup d'œil au protonotaire. Ce que j'aime dans cet extrait, c'est qu'Aldo présente un contre-modèle qui s'oppose à celui de l'agriculture productiviste, qui traque les maladies, décime les parasites et carbonise les mauvaises herbes à coups de pesticides et d'OGM, érodant ainsi les sols et la biodiversité. Avec cet exemple tout simple, on comprend que les maladies, les parasites et les mauvaises herbes ne sont pas un danger. Elles font partie intégrante de l'économie du vivant. Elles participent à l'équilibre des écosystèmes. En conclusion, soyez arbre pourri friendly, comme Aldo. Dans le bestiaire ornithologique du philosophe, nous avons aussi 65 290. Alors, qui est 65 290 ? C'est une mésange qui a vécu sur la parcelle du garde forestier pendant 5 hivers, ce qui est rare, car en général, elles ne survivent pas au deuxième ou au troisième hiver. Et en parlant de 65 290, Aldo montre que l'on peut concilier rigueur scientifique et affection. 65 290, c'est le numéro de bague de cette petite mésange, et le bagage, c'est ce qui permet aux ornithologues de suivre l'évolution d'une population d'oiseaux. Aldo a capturé 65 290 à 5 reprises, ce qui fait d'elle la seule survivante de la génération 1937. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres dans cette phrase et j'espère que les littéraires sont encore avec nous. S'il vous plaît, ne fuyez pas. L'ornithologue raconte comment il a individualisé cette mésange, 65 290, en particulier pour essayer de comprendre les conditions de survie de ces oiseaux. Il s'est demandé si elle était plus habile pour esquiver ses ennemis. Et si oui, quels ennemis elle a cherché à éviter ? Parce que c'est une mésange qui est presque trop petite pour en avoir. Je soupçonne qu'on enseigne deux commandements dans les classes de catéchisme des mésanges, écrit-il. Tu ne t'aventureras pas sur les terrains venteux en hiver et tu ne te laisseras pas mouiller avant une tempête de neige. Cette individualisation de l'animal et cette attention empathique à sa survie a une valeur épistémologique car elle permet à l'ornithologue de se poser des questions précises, loin de la froide objectivité qui distancie le sujet de son objet de recherche. Sur la question de l'émotivité, Aldo Leopold va encore plus loin. Il parle de l'importance de deuiller collectivement les espèces disparues. Nous avons érigé un monument pour commémorer la disparition d'une espèce. Il symbolise notre chagrin. Nous pleurons parce qu'aucun homme vivant ne verra plus l'ouragan d'une phalange d'oiseaux victorieux ouvrir la route du printemps dans le ciel de mars. Il y aura toujours des pigeons dans les livres et dans les musées, mais ce sont des effigies, des images mortes, à toute épreuve et à tout plaisir. Nos grands-pères étaient moins bien logés, moins bien nourris, moins bien habillés que nous. Les efforts par lesquels ils améliorèrent leurs conditions sont ceux-là même qui nous ont privés des pigeons. Si nous sommes en deuil, c'est peut-être que nous ne sommes pas sûrs, dans nos cœurs, d'avoir gagné au change. Les accessoires industriels nous apportent plus de confort que ne le faisaient les pigeons, mais contribuent-ils autant qu'eux à la gloire du printemps ? Alors, c'était aussi une citation de l'Almanach, et on retrouve deux choses importantes dans cet extrait. La première, c'est que les humains sont pris dans une tension entre la recherche de confort matériel et les dégâts causés par cette recherche de confort. Et deuiller est pour Aldo Leopold une manière de souligner ce qu'on a sacrifié pour avoir un certain mode de vie. Les endeuillés participent à l'écriture de l'histoire environnementale, la tissent à la grande histoire des événements humains, et les pigeons du Wisconsin intègrent la mémoire collective. La deuxième, c'est que le deuil d'une espèce animale met en lumière l'interdépendance et les liens affectifs qui soudent la communauté biotique. Cependant, il faut agir avant qu'on ait à deuiller. La démarche d'Aldo a pour but d'encourager la protection des oiseaux. Il a d'ailleurs participé à la protection du pluvier montagnard, qui était au bord de l'extinction. L'auteur est très attentif aux migrations annuelles, notamment celles des grues, pour voir si leur population a diminué d'une année à l'autre. Écoutez cet éloge poétique. Notre appréciation de la grue augmente à mesure du lent déroulement de l'histoire terrestre. Sa tribu, nous le savons maintenant, remonte au lointain Éocène. Lorsque nous entendrons son appel, ce n'est pas un simple oiseau que nous entendons, mais la trompette de l'orchestre de l'évolution. La grue est le symbole de notre passé sauvage, de cette incroyable marche des millénaires qui sous-tend et conditionne les affaires quotidiennes des oiseaux et des hommes. Le problème, c'est que la protection des grues, comme le reste des animaux sauvages, repose sur un paradoxe. Je le cite encore. L'histoire des marais, comme des marchés, s'achève-t-elle toujours sur un paradoxe ? La valeur suprême de ces marais, c'est leur sauvagerie, et la grue est la sauvagerie incarnée. Mais toute protection de la vie sauvage est vouée à l'échec, car pour chérir, nous avons besoin de voir et de caresser, et quand suffisamment de gens ont vu et caressé, il ne reste plus rien à chérir. Là, Aldo paraît sacrément pessimiste, mais moi je trouve que tout au long de l'ouvrage, il nous propose quand même une alternative, une autre manière de chérir le monde sauvage. Au lieu de voir, ou de voir pour voir, c'est-à-dire de voir pour pouvoir dire ensuite qu'on a vu, comme les gens qui se prennent en photo devant une toile de Monet, si vous voyez bien de qui je parle, et de caresser, c'est-à-dire d'essayer de s'approprier quelque chose par le toucher, eh bien, on peut tout simplement observer. Ne prendre de la nature que des émotions et des informations factuelles compilées dans un petit carnet qui raconte les habitudes de tel ou tel animal ou encore l'émotion qui nous a parcouru quand on a observé quelque chose d'inhabituel. D'ailleurs, c'est ce que fait Aldo dans l'Almanach. Peut-être qu'il nous propose une méthode, une approche à suivre dans cet ouvrage. Quelque part, il nous invite à poursuivre la mission qu'il s'était donnée. Alors, vous aussi, Écrivez votre propre almanach d'un comté lyonnais. Racontez-nous les rapports interespèces entre pies et mouflons. Analysez la géopolitique des oies du parc de la Tête d'Or. Et allez passer une tête à une réunion de la LPO du Rhône. Ils font un travail formidable qui s'inscrit dans la lignée initiée par Aldo Léopold. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Attire d'Elle, la première émission d'ornithologie philosophique et poétique, uniquement sur Transistor.